L'instant philo. Pourquoi rêvons-nous ? Pour les Grecs, Morphée, dans les bras duquel nous nous réfugions chaque nuit, est à la fois le dieu du sommeil et celui des songes. En effet, lorsque nous sommes assoupis, nous traversons deux séquences bien distinctes. Il y a le sommeil profond, où nos activités cérébrales sont au plus bas, où le corps s'abandonne à l'inertie la plus complète. Le visage du dormeur n'exprime alors plus rien, et on peut être fasciné, mais aussi effrayé par cette façon de s'absenter physiquement du monde qui ressemble à la mort. Il existe aussi le sommeil dit paradoxal. Paradoxal, car si on branche un électroencéphalogramme sur la tête du dormeur, on peut constater une activité cérébrale intense, souvent équivalente à celle d'une personne bien éveillée. Cette période s'accompagne aussi de mouvements du corps. Les yeux s'agitent souvent derrière les paupières. L'individu endormi change volontiers de position et peut prononcer quelques brèves et souvent incompréhensibles paroles. Il arrive même qu'il se dresse, se lève et se transforme en somnambule. Bref, lors du sommeil paradoxal, il se passe quelque chose de vraiment intriguant. Et c'est justement le moment où nous rêvons. Toutes les nuits, nous rêvons, même s'il est courant que nous n'en ayons aucun souvenir. Et quand nous nous souvenons d'un rêve, c'est souvent avec étonnement et fascination. Le rêve a ainsi de quoi nous faire spéculer. On a, par le passé, souvent estimé que les dieux, par son intermédiaire, entraient en communication avec les êtres humains. Les rêves, revêtus d'un caractère sacré, étaient ainsi pris très au sérieux et faisaient l'objet de multiples interprétations. On entend toujours parler de rêves prémonitoires, et les élucubrations sur les pouvoirs extraordinaires du rêve vont bon train sur Internet. Mais que penser en vérité de cette activité onirique ? Quelle est sa fonction et son sens profond ? Comment définir ensuite le rêve ? Bref, pourquoi rêvons-nous ? Le discours le plus savant et le plus cohérent que nous ayons pour l'heure sur le rêve est celui de la psychanalyse, en dépit de toutes les interrogations qu'elle continue de soulever. Freud, le père fondateur de cette nouvelle psychologie, s'est intéressé très tôt au rêve, qu'il considère, dans son premier ouvrage, comme la voie royale de l'exploration de l'inconscient. Faire l'étude de ce phénomène, somme toute banal, constitue en effet à ses yeux un argument fort pour prouver que notre activité psychique ne se réduit pas à la conscience que nous en avons. Si nous voulons répondre aux questions que nous nous posons sur le rêve, c'est donc d'abord les analyses de Freud qu'il faut prendre en considération. Son geste initial de scientifique en cette affaire est d'écarter la représentation mythologique et irrationnelle du rêve, qui estime que l'activité onirique constitue un accès à une autre dimension du réel, souvent un monde surnaturel. On peut penser au dream time, ce temps du rêve qui est le moment mythique au fondement de toute la conception totémiste du monde des aborigènes d'Australie. Plus proche de nous, dans les monothéismes, beaucoup de relations au divin ainsi que d'annonces faites notamment à des prophètes se déroulent lors de rêves. Enfin, là où le culte des ancêtres est pratiqué, les songes sont censés permettre d'entrer en contact avec les défunts. Penser le sommeil comme un accès à un monde différent a inspiré aussi le cinéma fantastique. Dans Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, l'héroïne, dès qu'elle s'endort, se retrouve en proie aux lacérations d'un personnage terrifiant, qui incarne assez bien l'aspect autodestructeur de certaines pulsions inconscientes quand elles font retour dans la conscience. Freud estime que toutes ces représentations d'un au-delà que l'activité onirique permettrait d'explorer ne sont que des interprétations imaginaires d'une activité psychique, elle, bien réelle, mais mal comprise. Là où la vision mythologique voit dans le rêve le lieu d'une rencontre avec des réalités extérieures et surnaturelles, Freud, en scientifique qu'il est, perçoit la présence d'un pouvoir tout à fait naturel et intérieur à notre psychisme qu'il nomme la dramatisation. De quoi s'agit-il ? La dramatisation est la capacité que nous avons de mettre en scène, à l'aide d'une production imaginaire, la réalisation d'un désir qui nous tient à cœur. Cette fonction psychique générale permet de comprendre bien des œuvres d'imagination, mais aussi et surtout le jaillissement en nous des rêves. Si nous rêvons la nuit, c'est parce que nous mettons en scène la satisfaction d'aspirations profondes que, dans la journée, nous ne pouvons pas combler. Le rêve est ainsi une sorte de soupape de sécurité qui permet à la pression de nombreux désirs non assouvis dans le quotidien de baisser et de devenir supportable. Une personne qui perdrait la possibilité de rêver deviendrait folle. Ainsi, loin de nous introduire dans une extension mystérieuse du réel, le rêve permet de nous consoler grâce à l'imaginaire de toutes les privations que le réel nous impose. On comprend mieux ainsi l'opposition entre rêve et réalité. Toutes ces précisions autorisent Freud à proposer la définition suivante. Le rêve est la réalisation d'un désir. De fait, quand on utilise l'expression populaire « ce serait le rêve », dit-on autre chose. Le rêve désigne ici le bonheur, c'est-à-dire la satisfaction d'un désir qui nous comblerait vraiment. Et puisqu'il est de manière générale toujours la réalisation d'un désir sur une scène imaginaire, le rêve a bien un sens. Une interprétation de nos songes, à l'aide de connaissances et d'une méthode scientifique, est envisageable, qui peut permettre de saisir les désirs bien réels et souvent inconscients qui s'agitent en nous. Une enquête peut être ouverte pour découvrir quelles aspirations profondes s'expriment dans nos rêves et quels fantômes oubliés de notre passé viennent parfois nous hanter.
When the room is quiet, the daylight almost gone. It seems there's something I should know. Well, I ought to leave, but the rain, it never stops, and I've no particular place to go. Just when I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life blow wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to be king, the ghosts of my life blew wilder than.
Freud s'est opposé avec force aux théoriciens matérialistes de son époque qui estimaient que le rêve est un épiphénomène sans aucun sens. Ces derniers, prenant appui sur l'aspect décousu et absurde de la plupart de nos rêves, en concluaient que ces fragments incohérents de représentations et d'affects sont les produits d'une simple surchauffe de notre activité cérébrale. Quand une machine a beaucoup tourné, elle continue parfois, quand on l'éteint, à émettre sifflements et grincements divers. Il serait incongru de tenter de saisir à travers ces bruits un message qu'elle nous adresserait. De la même manière, quand une journée est très agitée, notre cerveau stimulé est en ébullition et lorsque le sommeil arrive, il produit encore en vrac images et sentiments qu'on nomme rêves, dont il n'y a rien à tirer. Pour les matérialistes, songe n'est que mensonge et un scientifique se couvrirait de ridicule s'il voulait interpréter un rêve. Évidemment, Freud s'inscrit en faux contre cette théorie. Il existe en effet des rêves d'enfants qui réalisent clairement pendant le sommeil un désir conscient. Par exemple, un enfant qui adore jouer au foot avec ses camarades doit, à la fin d'une journée passée à cette saine activité, rentrer à la maison et prendre sa douche et son dîner et se coucher. Il peut certes protester, mais avec la pression conjuguée des parents et de la fatigue, il finit par s'endormir. Au matin, quand il raconte son rêve, on n'est pas surpris d'apprendre qu'il a rêvé jouer au football toute la nuit et qu'au fond, il a pu réaliser sur la scène onirique le désir qui lui tenait à cœur de satisfaire. L'erreur des matérialistes est d'ignorer ces rêves qui réalisent clairement des désirs conscients. Les matérialistes en restent aux rêves dits d'adultes, qui sont des réalisations déguisées de désirs inconscients et dont le souvenir est très confus. Pour Freud, on le sait, notre activité psychique est en partie inconsciente, car nous avons en nous des pulsions et des aspirations que nous ne supporterions pas de voir en face. Bien des idées des passions sont ainsi refoulées, c'est-à-dire rejetées dans la partie inconsciente de notre psychisme, en vue de protéger notre équilibre. Néanmoins, ces désirs refoulés et inconscients restent en nous, et il est bon aussi, parfois, pour notre équilibre, de leur concéder quelques satisfactions quand ils montent en puissance et pourraient créer des tensions dommageables à notre santé mentale. Les rêves d'adultes répondent à cette nécessité de mettre en scène quelques actes qui apportent une satisfaction imaginaire à ces désirs qui s'agitent en nous, sans que nous puissions bien les identifier et qui pourraient, d'ailleurs, si c'était le cas, nous tourmenter. L'activité onirique développe ainsi en nous un théâtre intérieur qui nous console des fortes déceptions du quotidien, que ces dernières soient conscientes ou non. Mais, ayant dit ça, que faire des cauchemars qui semblent contredire par leur contenu émotionnel négatif l'idée que le rêve serait la réalisation d'un désir et source de bien-être? Il est bon de rappeler tout d'abord que nos propres désirs peuvent nous faire peur. Ils peuvent produire de l'angoisse et avoir été d'ailleurs refoulés pour cela. Dans les rêves d'adultes, habituellement, la réalisation des désirs inconscients est censurée. La conscience est alors protégée au petit matin. Notre souvenir de ces rêves cache, en effet, tout ce qui pourrait trop nous perturber. Ce travail de dissimulation se fait en grande partie au moment où nous rêvons, même si on constate avec surprise qu'il arrive que les traces d'un rêve qui semblait bien imprimé s'effacent au fur et à mesure que la journée avance. Les cauchemars se produisent donc quand le travail de censure ne fonctionne plus bien. Le psychisme utilise alors un autre moyen pour protéger la conscience. Il brouille tout ce qui est trop explicitement déstabilisant par une montée d'angoisse qui détourne l'attention. Et si cela ne suffit pas, il ne reste plus qu'à faire monter l'angoisse au point de réveiller le dormeur qui arrête ainsi de rêver. Le cauchemar ne déroge donc pas à la définition du rêve. Le cauchemar est aussi la réalisation, certes mal dissimulée, d'un désir inconscient, où la censure, n'arrivant plus à protéger la conscience avec ses outils habituels, fait monter l'angoisse et finit même par stopper tout le processus en cours quand elle voit que cela dégénère. La différence, on le voit, entre ces deux manifestations de la vie onirique que sont le rêve et le cauchemar n'est donc pas si radicale. Au fond, si nous rêvons, c'est parce que nos aspirations dépassent toujours la réalité que nous vivons. Le rêve, en ce sens, peut être ainsi pensé comme un refuge construit dans l'imaginaire. Mais, il ne faut pas l'oublier, il est aussi ce qui nous conduit à transformer le réel et à espérer, grâce à l'imagination, un monde meilleur. Dans une prochaine émission, j'aborderai la question de l'interprétation des rêves en prenant le temps de développer quelques exemples pour illustrer mon propos. Au revoir.